Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, bonjour, bienvenue dans notre émission. Nous venons de commencer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a lieu comme habituellement du 18 au 25 janvier. Elle a donc commencé hier soir, jeudi 18 janvier, à 18h30, au monastère des Clarisses, rue Brunswick, à Nîmes. Et nous avons eu le plaisir d'être tous ensemble, Église protestante unie, Église catholique, Centre Martin Luther King et Église orthodoxe, et Sœur Clarisse, tous ensemble pour cette célébration. Nous avons donc pu vivre ce moment et je vous propose d'en écouter un petit extrait en écoutant tout d'abord un chant, « Je louerai l'Éternel », puis la lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un autre chant chante « Alléluia » et ensuite la prédication donnée par le pasteur du centre Martin Luther King, Paul Efona, qui est arrivé récemment au mois de septembre. Nous terminons par un petit chant « Te ressembler, Jésus ». Voilà, je vous laisse vivre ce moment de célébration œcuménique, très sympathique, très chaleureux, et je vous dis, quant à moi, à la semaine prochaine. Bonne écoute.
Jésus reprit. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva comme le frère descendait par ce chemin. Il y repassa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en déversant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit : prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit : c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit : va, et toi aussi, fais de même.
Cette lecture éthique et philanthropique cherche à mettre en valeur le secours et l'aide qu'il faut apporter aux pauvres et aux démunis. Dans cette perspective, tout le monde est le prochain de tout le monde et tout le monde devrait aimer tout le monde en général. Et en général, cela semble aller de soi. Mais qu'en est-il en particulier? La seconde question que le légiste soulève concerne précisément celle de savoir qui est mon prochain. Cette question nous révèle encore aujourd'hui qu'elle est une vieille question débattue déjà au temps du judaïsme ancien et que, contrairement aux apparences, la réponse, d'autre part, ne va pas de soi. En effet, comme le souligne Joachim Jérémias, à cette époque, on était certes d'accord pour comprendre sous ce terme de prochain, il dit de compatriote, le compatriote et le prosélyte. Mais on ne l'était pas sur les exceptions. Les pharisiens étaient enclins à exclure les non-pharisiens. Les Esséniens prétendaient qu'il fallait haïr tous les fils de ténèbres. Des rabbins déclaraient que l'on devait pousser, sous-entendu, dans la fosse tous les hérétiques, les délateurs, les renégats, et ne pas les en tirer. Et une maxime populaire, nous apprend-on, excluait l'adversaire personnel du commandement d'amour. Vous avez entendu que Dieu a dit: tu dois aimer ton compatriote, seulement tu n'as pas besoin d'aimer ton adversaire. Jésus est donc invité par le légiste, dont les lecteurs savent sous la plume de Luc les intentions. Le légiste est motivé par le désir de mettre à l'épreuve, de tester, de jauger Jésus. Il interpelle et l'invite à prendre part à un débat théologique de son temps. Qui est mon prochain? Le légiste serait-il en train de demander à Jésus de lui fournir une définition toute mâchée du prochain? Ou chercherait-il seulement à savoir jusqu'où Jésus dessinerait les frontières de l'amour du prochain à l'intérieur du peuple juif? Or, nous savons que le dialogue entre le légiste et Jésus va déboucher in fine sur un renversement spectaculaire de perspective. Pour Jésus, il ne s'agit pas tant de savoir qui est mon prochain, mais la question est de savoir de qui suis-je le prochain. En nous mettant à l'écoute de cet évangile de la miséricorde qui nous est partagé par Luc, j'aimerais formuler trois propositions. En premier lieu, devenir prochain de l'autre suppose plus qu'un déplacement, un dépassement des frontières. Et pour cela, il faut se rappeler la perspective de Luc, le cadre dans lequel il situe cette parabole, c'est celui du carnet des voyages de Jésus-Christ. Ce carnet de voyages couvre les chapitres 9 au chapitre 18 de l'évangile de Luc. Jésus entreprend un long voyage, son grand et dernier voyage. Il va quitter la Galilée des nations, l'épicentre de sa prédication, pour se rendre à Jérusalem, l'épicentre de la vie religieuse juive. Et tout au long de cette traversée, de ce voyage, l'enseignement de Jésus sous la plume de Luc met en exergue des thèmes importants et, entre autres, Luc manifeste un grand intérêt pour les non-juifs et il donne une place particulière aux Samaritains, soulignant la perspective positive selon laquelle Jésus les considère. Si Luc n'ignore pas que Jésus est d'abord venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et la Bible le dit, et Jésus l'affirme lui-même, il est particulièrement à montrer que l'amour de Jésus déborde les frontières de son peuple. Luc met constamment en exergue l'universalité de l'amour et du salut que Jésus offre aux publicains, aux pauvres, aux lépreux, aux marginaux, en somme, jusqu'aux ennemis. Et mais Dieu le Père, tel que le Fils veut le révéler à ses tout petits, Jésus vient de dire « Je te bénis, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux grands de ce monde et tu l'as révélé à ses petits. » Ce que Jésus veut nous révéler, c'est l'amour de Dieu le Père, rappelé d'ailleurs par ce registre dans le double commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de façon totale pour aller rapidement. Et cela implique d'aimer son prochain. Pour Jésus, être fils de Dieu, aimer Dieu que nous ne voyons pas, implique donc plus qu'un déplacement du curseur qui se limiterait à l'intérieur d'un même groupe ethnique. Il voudrait davantage nous amener au-delà des groupes ethniques, au-delà des frontières socio-religieuses, à découvrir ce que Luc a bien perçu. C'est que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est un amour qui ne peut être l'exclusivité d'une ethnie, d'une composante sociologique au sein du peuple. Et d'ailleurs, Luc n'est-il pas celui qui a également écrit les Actes des Apôtres où nous retrouvons cet appel à dépasser les frontières? Dès le premier chapitre des Actes des Apôtres, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a-t-il pas enseigné à ses disciples dans le sermon sur la montagne que leur amour devait dépasser toutes les frontières? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors oui, devenir prochain de l'autre suppose un exode en quelque sorte, une sortie des frontières qui confinent trop souvent à l'identité ethnique ou socio-religieuse. Mais la découverte de l'altérité suppose ce déplacement du soi vers l'autre, à la fois semblable et radicalement différent. La deuxième proposition, c'est que devenir prochain de l'autre implique une conversion de nos regards. Aimer le prochain et devenir prochain pour l'autre n'est possible que parce que le Christ lui-même convertit notre regard. En effet, à trois reprises, notre texte souligne le fait d'avoir vu l'homme blessé et laissé pour mort. D'abord, le prêtre qui descend par ce chemin, il est dit « il vit l'homme et passa à bonne distance ». Le Lévite qui passait aussi par là, il vit également l'homme et passa lui aussi à bonne distance. Un Samaritain qui passa par là, il le vit et fut pris de pitié. Le blessé était à moitié mort. Il ne peut donc s'identifier par lui-même. Par ailleurs, il a été dépouillé de ses vêtements. Les autres ne peuvent pas l'identifier, ni en particulier déterminer à quel groupe socio-religieux ou racial il appartient. Jésus ne l'a pas désigné autrement comme un certain homme. Lui seul, de tous les personnages de cette histoire, échappe à toute détermination autre que son appartenance à l'humanité. Libre à chacun de nous de s'identifier avec lui. Pourtant, c'est lui, cet homme à moitié mort, qui va déterminer les différents personnages qui le rencontrent sans rien faire, sans rien dire. Et il est remarquable que toutes les décisions soient prises par rapport à cet homme non identifié et totalement passif. Les trois voyageurs l'ont vu à demi-mort, mais la différence tient à peu de mots. Les deux premiers arrivent, voient, s'éloignent pour faire un détour. Le Samaritain arrive, voit, est pris de pitié et s'approche du malheureux. Il y a donc, frères et sœurs, voir et voir. Prêtres et lévites, qui sont des personnes pieuses, attachées à la loi mosaïque, dont le centre vient d'être récité, aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même, ont vu un obstacle à leur propre idéal de pureté. Ils ont vu ce gisant comme un risque à ne pas courir. En effet, si l'homme à terre est déjà mort, le prêtre et le lévite ne pouvaient le toucher sous peine de souillure rituelle. Il y aurait pu avoir ici un conflit interne de loi. La loi de la pureté rituelle et la loi de l'amour de Dieu à travers l'amour du prochain. Mais Luc a bien pris le soin de nous dire que cet homme n'était pas tout à fait mort, il était à demi-mort. Il n'y avait donc pas de dilemme. Notons pour autant que le texte n'accable pas davantage le prêtre et le lévite. Les premiers éditeurs de Jésus ont dû être déconcertés par la mention du troisième homme, un Samaritain. Le frère ennemi, l'hérétique, le méprisé, osons le mot l'étranger. Pourtant, il est bien celui qui devient l'agent de compassion. Et Luc utilise même un terme splanta qui fait référence aux entrailles. Le voir de cet homme n'est pas juste un voir de la vue extérieure, ça devient un voir du cœur et même un voir des entrailles. Un voir qui nous révèle la compassion et la miséricorde de Dieu. Quel dépassement, quel renversement spectaculaire du regard. Quelle conversion! Si bouleversant, notamment si l'on suppose, ce qui est plausible, que l'homme demi-mort est un juif. Frères et sœurs, nous sommes dans ce temps de prière pour l'unité des chrétiens, nous aussi en marche, appelés à sans cesse à laisser le Christ convertir nos regards. Nos mémoires et l'histoire de nos églises sont chargées de temps de conflits, de temps de regards probateurs, de temps de difficultés à nous accueillir en vérité comme frères et sœurs en Jésus-Christ. L'église du Burkina Faso connaît également ce contexte et ce conflit. Mais ce sont eux, et je reprends ici leurs mots, qui nous invitent ensemble à aller plus loin sur le chemin de la fraternité. Ils nous disent que le manque de connaissances mutuelles entre les églises et la méfiance des uns envers les autres peuvent faire obstacle à l'engagement dans la voie de l'œcuménisme. Certains craignent que l'œcuménisme puisse leur faire perdre leur identité confessionnelle et entrave la croissance de leur église. Mais cette rivalité, nous disent-ils, entre églises est contraire à la prière de Jésus. Tout comme le prêtre et le lévite du passage de l'évangile, les chrétiens manquent souvent les occasions de se rapprocher de leurs frères et sœurs par crainte. Pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous demandons au Seigneur de nous venir en aide et de soigner nos blessures afin que nous puissions avancer sur le chemin de l'œcuménisme avec confiance et dans l'espérance. J'aimerais conclure avec cette troisième proposition. Devenir prochain de l'autre pour l'autre est une dynamique de vie. Le renversement spectaculaire que nous venons de souligner, en effet, débouche sur un envoi du légiste. Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Devenir prochain n'est pas, et nous le pressentons bien, l'histoire d'une soirée, l'histoire d'un instant, pas même l'histoire d'un moment, mais Jésus nous propose de le voir comme une dynamique de vie. Se lever et aller, n'est-ce pas le début d'une marche N'est-ce pas le début de cette dynamique? Il s'agit, pour aller vite, d'accepter en conscience que l'amour de Dieu élargisse tout en moi, comme Abraham s'est élargi et a offert l'hospitalité à ceux que Dieu avait envoyés. Au fond, c'est cet amour que Dieu nous a manifesté le premier qui nous presse et nous pousse à aimer l'autre, semblable et différent, à nous engager résolument vers une vision de l'autre sans frontières. Oui, je reprends ici l'expression du pape François qui, en bon franciscain, nous a, par-delà son Église, donné cette exhortation fraternelle, Fratelli tutti, tous frères, où il nous encourage à promouvoir cette vision du prochain sans frontières. Il nous dit en ces termes, ce qui est proposé, c'est d'être présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance. Chaque jour, une nouvelle opportunité s'offre à nous. Nous entamons une nouvelle étape. C'est donc une dynamique. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants, ce serait puéril, écrit le pape François. Nous disposons d'un espace de co-responsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations. Soyons partie prenante de la réhabilitation et de l'aide aux sociétés blessées. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que par essence, nous sommes frères. L'opportunité d'être d'autres bons samaritaines qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments. Comme pour le voyageur de notre histoire qui passait par hasard, il suffirait juste d'être animé du désir spontané, pur et simple, de vouloir constituer un peuple, d'être constant et infatigable dans le travail d'inclure, d'intégrer et de relever celui qui gît à terre. Même si bien de fois nous nous sentons débordés et condamnés à reproduire la logique des violents, de ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion et mensonge, que d'autres continuent à penser à la politique ou à l'économie pour leur jeu de pouvoir. Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.
Écoutez, Alliance Plus à Nîmes.